Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anaïs Sauty de Chalon.
Ce regard croisé sur le coma proposé par Anaïs Sauty de Chalon se décline en deux émissions. Celle que vous allez écouter dans un instant avec pour invité Jean-Roger Le Gall, ancien chef du service de réanimation de l'hôpital Saint-Louis. Et pour que ce regard croisé soit complet, nous vous invitons à écouter également l'entretien avec Daniel Vermeulaine, anthropologue. Vous trouverez cette émission sur le site de Canal Académie dans la rubrique « Regard croisé ».
Bonjour et bienvenue dans ce regard croisé consacré au coma. Le coma ou l'état comateux, c'est une situation certes un peu insolite à laquelle vous ne songez peut-être pas, mais qui peut très bien, comme tout accident, survenir. Et là, que se passe-t-il? D'abord, qu'est-ce que c'est précisément? On a traité dans ce regard croisé l'aspect anthropologique, l'aspect relation avec la famille, les pistes que l'on pouvait essayer de discerner dans des situations extrêmement délicates, douloureuses, qui peuvent s'éterniser, qui plus est, et qui donc constituent un enjeu sous l'angle des relations humaines tout simplement. Il y a évidemment l'aspect médical que l'on va traiter avec le professeur Jean-Roger Le Gall. Bonjour professeur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous à Canal Académie pour évoquer cette question dont vous êtes spécialiste, que vous connaissez très bien. Vous êtes professeur honoraire à l'Université Paris 7. Vous avez été chef du service de réanimation médicale pendant 20 ans à l'hôpital Saint-Louis. Vous êtes d'ailleurs médiateur à l'hôpital Saint-Louis. Le coma, j'allais dire, n'a plus de secret pour vous. Et pourtant, c'est en soi un état humain qui invite au mystère, à la méditation presque sur le mystère de notre nature humaine et le flou avec lequel on s'achemine peut-être entre la vie et la mort.
Bon, la définition de coma est relativement simple. Hein. C'est l'abolition de la vie de relation avec les autres en conservant la vie végétative, c'est-à-dire que les organes continuent à marcher normalement, mais il n'y a plus de relation avec autrui.
L'homme est un peu coupé en deux. Sa partie médiatrice n'existe plus.
C'est ça, oui. Il y a une différence avec le sommeil, hein, puisque le sommeil peut être interrompu assez facilement, tandis que le coma ne peut pas l'être.
Donc perte de vie de la relation,
oui.
Mais conservation de l'état végétatif.
Oui,
c'est la caractéristique médicale imparable, quel que soit l'état du coma.
Quel que soit l'état du coma, quelle que soit sa profondeur, mais il y a des profondeurs différentes, progressives. Par exemple, il y en a généralement, on en distingue 3 ou 4 selon les classifications. Il y a le coma léger, dans lequel, lorsqu'on stimule le patient, lorsqu'on le pince sans lui faire quand même trop mal, lorsqu'on le pince, il réagit de façon coordonnée, c'est-à-dire qu'il essaye d'enlever la main qui lui fait mal. Donc ça, c'est le coma léger. Le deuxième stade, le coma profond, lorsqu'on stimule le patient de la même façon, il réagit de façon non coordonnée, c'est-à-dire que il remue, il fait des gestes, mais qui n'ont aucune relation avec l'endroit où il est atteint. Ça, c'est le deuxième stade. Le troisième stade, il ne réagit pas du tout. Il ne réagit pas du tout, quelle que soit la façon dont on le stimule, il ne réagit pas. Et on peut distinguer un quatrième stade, mais ça, j'aimerais en reparler, c'est le coma dépassé, parce que ce n'est pas un très bon terme. Il vaut mieux lui préférer le terme de mort cérébrale.
Ah, déjà, vous osez le terme de mort?
Oui. Oui, le terme de mort cérébrale est plus exact que le coma dépassé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de comas dépassés qui sont des morts cérébrales. Le coma dépassé, c'est un état dans lequel le malade ne respire même plus, mais on peut maintenir sa respiration par un appareil. Le malade ne respire plus et ça correspond souvent à une mort cérébrale, mais pas toujours.
Pas professeur, toujours. Est-ce que dans tous les cas de coma, il y a abolition de la volonté du sujet? C'est-à-dire, il ne peut pas maîtriser sa situation, il ne peut pas avoir un regard lucide sur sa situation. On est d'accord?
Il n'a pas de conscience.
C'est ça.
Il n'a pas de conscience. Encore qu'il y ait des épisodes quelquefois assez extraordinaire. Je me rappelle un patient qui était dans le coma depuis plusieurs jours pour des raisons métaboliques et infections très sévères. Et on discutait devant lui de l'intérêt de le passer au rein artificiel, de faire une technique de rein artificiel ou pas, parce que son état nous paraissait relativement désespéré. Donc on se demandait si c'était vraiment une bonne chose de continuer. Nous avons fait le rein artificiel et le patient, après quelques jours, a guéri, s'est réveillé. Et il nous a dit que pendant son coma, il avait rêvé qu'il était un tribunal et qu'il y avait des juges, en particulier le chef de service et un de ses assistants qui discutaient, alors qu'il y avait un rein artificiel entre eux et le patient, qui discutaient pour savoir si on allait le passer au rein artificiel ou pas. Or, il était complètement dans le coma, apparemment. Donc il y a quelques histoires comme cela qui sont un peu curieuses.
Vous en avez eu comme ça en 20 ans des témoignages d'après-coma de personnes
revenues de loin ? Oui, on a eu
quelques
témoignages, quelquefois agréables. Les gens ont rêvé qu'ils étaient sur une plage, qu'ils étaient en vacances. C'est très, très variable comme rapport. Mais enfin, c'est rare. Hein. J'en ai vu dans des milliers de comas, j'en ai vu quelques fois, c'est quand même tout à fait rare.
Mais c'est-à-dire qu'il était de l'ordre du rêve.
Oui, enfin, mais du rêve...
Agréable.
Agréable, mais qui peut avoir relation avec la réalité, puisque c'est le patient, le premier patient dont je vous parlais a quand même vécu des choses qui étaient réelles.
Est-ce que c'est facile de diagnostiquer un coma ? Ça s'impose comme une évidence ?
Alors, c'est généralement très facile. Généralement, c'est très facile. Il y a une exception, c'est le coma simulé.
Le coma simulé ?
Simulé, oui. Les gens peuvent faire semblant d'être dans le coma.
Mais pourquoi ?
Ah, ben c'est pour des raisons psychiatriques, généralement, des raisons variables, mais souvent d'origine psychologique.
Hein. Vous en avez rencontré ?
Oui. Oui, oui, on en voit. Et bon, le diagnostic est assez facile parce que quand on essaye d'ouvrir les yeux du patient, il résiste. Tandis que dans le coma, on peut ouvrir les yeux sans problème, il n'y a pas de résistance.
Alors, est-ce que c'est facile de faire la distinction entre un comateux et un mortel ? Une personne qui est morte.
Une personne qui est morte.
Alors, immortel, nous sommes tous, mais une personne qui est passée de l'autre côté.
C'est-à-dire que la différence entre un coma très profond, quoi, ce qu'on appelle le coma stade 4, où il n'y a plus de respiration
donc mort cérébrale
spontanée,
ou coma dépassé.
Est-ce que c'est une mort cérébrale ou pas ? Ouais. C'est ça la question, et qui est importante pour le pronostic et pour éventuellement pour un prélèvement d'organes, si on envisage de prélever des organes.
Et de quels outils dispose-t-on pour se faire une idée ?
Alors, il y a d'abord la cause, hein, l'étiologie. L'étiologie, c'est très important. Pour dire qu'il y a mort cérébrale, on ne peut pas le dire, on ne peut pas prélever d'organes, on ne peut pas dire qu'il y a mort cérébrale lorsqu'il y a une intoxication profonde. Une intoxication par des médicaments, par des barbituriques, par des morphiniques, etc. Ou bien quand le patient est en hypothermie, c'est-à-dire qu'il est tombé par exemple sous une avalanche ou bien dans une eau glacée, à ce moment-là, les patients peuvent être en état de mort apparente et en réalité ils sont dans un coma très profond. On ne peut pas se servir de l'électroencéphalogramme car il est plat dans les deux cas, hein, il n'y a pas d'activité cérébrale. Il y a des rapports qui ont été faits d'un garçon de 14 ans qui était tombé dans l'eau glacée et qui est resté 4 heures en état de mort apparente. C'est-à-dire mort apparente, c'est-à-dire avec un cœur arrêté, aucun signe d'activité neurologique. Et après 4 heures de réchauffement, de massage cardiaque, etc., il a récupéré complètement. Donc,
il est revenu à la vie normalement ?
Oui, normalement.
Après 4 heures ?
Oui. Donc, la mort cérébrale peut être affirmée lorsque l'étiologie est évidente, lorsqu'il y a une cause évidente, par exemple un traumatisme crânien extrêmement grave, un accident vasculaire cérébral où le cerveau est complètement inondé de sang et on voit sur le scanner qu'il n'y a plus d'espoir possible, que jamais il n'y aura de récupération. Et puis on peut aussi vérifier la circulation intracérébrale qui est arrêtée. Il n'y a plus de circulation dans le cerveau. Donc ça, c'est faisable aussi avec des appareils. Avec des dopplers, on voit que la circulation est arrêtée.
Les cas les plus fréquents que vous avez rencontrés, ce sont des traumatismes ?
Alors, oui, les traumatismes sont...
L'accident sont de voiture, par exemple.
Oui, c'est une des accidents de voiture, ou l'accident, le traumatisme, l'accident de moto, ou l'accident du piéton. Hein, c'est un cas très fréquent. C'est peut-être pas le plus fréquent quand même, parce que je n'ai pas les statistiques exactes, mais je dirais que c'est à peu près 30%, en gros 30% des causes. Et donc, alors c'est un coma particulier parce que il survient souvent chez des gens relativement jeunes. Il est de meilleur pronostic que les autres. Les patients peuvent récupérer après quelques heures ou quelques jours, même d'un coma assez profond. Ça, c'est une certitude, mais c'est une certitude statistique, mais c'est pas toujours une certitude individuelle. Et c'est aussi parmi les comas traumatiques, il y a le plus d'évolution. Enfin, c'est là qu'on voit le plus d'évolution vers les états végétatifs chroniques, hein, c'est-à-dire les comas chroniques, si vous voulez, pour simplifier les choses.
Le coma chronique, donc, qui se prolonge.
Qui se prolonge des mois ou des années, oui.
C'est ça. Ariel Sharon, par exemple, est toujours dans le coma.
Oui.
Mais ce n'est pas lié à un traumatisme, c'est un accident cérébral.
Vasculaire cérébral, oui. Ariel Sharon, je pense que c'est... Voilà, on arrive dans un autre chapitre, qui est celui des états végétatifs chroniques. Je ne sais pas si on en parle tout de suite ou si...
Vous pouvez en dire un mot, puisque ça fait partie de ce chapitre-là, des comas qui se prolongent, justement.
Oui, c'est les comas qui se prolongent.
Un Américain était resté 18 ans dans le coma, Américain.
Je pense que, pour moi, ce sont des états iatrogènes, c'est-à-dire qu'ils sont créés par le médecin. Parce que s'il n'y avait pas eu d'intervention médicale, il n'y aurait pas de coma chronique. Je dis coma chronique pour simplifier les choses. Le terme exact, c'est état végétatif.
C'est-à-dire pour vous, avec l'état végétatif, on n'est déjà plus dans le coma, on est dans une autre réalité.
C'est l'état végétatif chronique, il y a quelques... apparence, pas de conscience, mais quelquefois le malade bâille ou bien a l'air de dormir et de se réveiller, ou bien a quelques gestes coordonnés quand on le stimule. Mais c'est très vague et ça peut donner l'impression. Alors, les états végétatifs chroniques... souvent on donne l'impression, alors est-ce que c'est une impression uniquement, difficile à dire, mais donne l'impression aux familles qu'ils répondent, donne l'impression. Les familles, ils sont souvent très attachés, bien sûr, et viennent leur rendre visite et disent, par exemple, quand je rentre dans la chambre, ils tournent les yeux vers moi, ils savent que je suis là, mais... Cela n'est pas sûr, c'est peut-être l'imagination des proches.
C'est la famille qui
proches,
se fait une idée parce que...
Probablement, oui. Bah oui, vous savez, quand vous avez...
pour surmonter l'épreuve, on
quelqu'un
s'imagine.
Quelqu'un de proche que vous avez connu pendant des années et qui est dans le coma pendant très longtemps, c'est difficile de ne pas penser qu'il a encore une vie de relation. C'est difficile de ne pas penser qu'il pense. C'est très difficile.
Alors, professeur, vous abordez un sujet justement que je voulais traiter au cours de cet entretien. C'est la question de savoir si on stimule suffisamment les personnes qui se trouvent en état comateux. Est-ce qu'il y a des procédures qui, médicalement, sont appliquées sur ces sujets pour qu'ils reviennent à l'état normal ou pour qu'on tente de les faire revenir à l'état normal? Ou est-ce qu'on les laisse tout simplement végéter, tel est le cas, tel est le mot approprié pour la situation, dans un lit d'hôpital?
Non, actuellement, dans les services qui reçoivent ce type de patients, il y a des techniques qui sont appliquées, qui viennent en grande partie des États-Unis, mais qui sont maintenant adoptés en France. Aux patients, on leur fait écouter de la musique, on les stimule, on leur fait faire des gestes même passifs. On essaye de les stimuler au maximum, oui.
Des gestes passifs, c'est-à-dire on prend le bras, on le soulève.
On leur parle aussi, Ça, c'est toujours important de parler aux patients dans le coma, parce que on ne sait jamais, peut-être qu'il y a quelque chose qui passe, et puis c'est plus humain de leur parler. Mais il y a des techniques de stimulation, effectivement, qui sont actuellement employées chez ces patients en état végétatif chronique. Par exemple, à l'hôpital de Berck, qui a beaucoup de patients de ce type, hein. Des dizaines ou des centaines de patients de ce type.
Où était Vincent Humbert ?
Où était Vincent Humbert ? Mais ça, on pourra en reparler aussi. Hein.
Je vous en parlerai.
D'accord.
C'est un hôpital spécialisé qui est réputé en la matière.
Ouais, très réputé. Ouais. Ouais.
On marque une pause, professeur Le Gall. À tout de suite.
Canal Académie vous ouvre les portes de l'Académie des sciences. Les académiciens se prêtent au jeu du portrait dans l'émission En habit vert, répondent aux questions de société dans Éclairage et vous présentent leurs derniers ouvrages dans Au fil des pages. Retrouvez Yves Coppens, Étienne-Émile Beaulieu, Albert Fert, Georges Charpak, Axel Kahn, Nicole Ledoirin et bien d'autres encore. Des émissions en téléchargement gratuit sur canalacademie.com.
Suite de ce regard croisé consacré au coma avec le professeur Jean-Roger Le Gall, qui a été pendant 20 ans chef du service réanimation à l'hôpital Saint-Louis, dont il est toujours le médiateur. Il enseignait également à l'université Paris 7. Alors, professeur Le Gall, on essaie de faire le point sous l'angle médical sur la réalité du coma. On en était à la stimulation et le fait que des techniques étaient appliquées sur les personnes qui se trouvent dans cet état. Et on évoquait l'hôpital de Berck. On viendra justement au cas de Vincent Humbert qui avait occupé beaucoup la réflexion médiatique en particulier. Oui, je reviens sur ces techniques. Est-ce que vous estimez que c'est un élément décisif dans l'évolution du comateux? Ou bien est-ce qu'on l'occupe en quelque sorte? Mais est-ce que vous estimez que ça peut avoir un poids réel sur sa capacité à revenir à la vie normale?
Je ne suis pas sûr qu'il y ait des études qui, enfin, à ma connaissance, il n'y a pas d'études qui aient prouvé que ces techniques améliorent.
Mais est-ce qu'il y a des études qui sont menées déjà là-dessus?
Il y a des études qui sont menées.
En France?
Qui sont menées en France et à l'étranger également. Il y a des études multicentriques. Mais actuellement, il n'y a pas de résultats probants sur ces techniques de stimulation. Mais par contre, il y a des cas individuels où la famille ou les soignants ont trouvé une amélioration de l'état de conscience de ces patients. Donc une récupération peut-être plus rapide. Ceci dit, il y en a beaucoup qui ne récupèrent pas. Hein, la plupart ne récupèrent pas quand même.
Quand vous dites ne récupèrent pas, c'est-à-dire ?
Restent dans un état végétatif chronique pendant des années. Ce qui est un échec de la médecine, parce que c'est créé par la médecine. Allez, par exemple, dans le tort qu'on a eu pour Ariel Sharon, c'est de lui faire une trachéotomie. S'il avait été dans mon service et s'il n'avait pas été aussi célèbre, on ne lui aurait pas fait de trachéotomie.
Et que serait-il advenu ?
Il serait mort. Il serait mort, puisque à ce moment-là, on les laisse intuber et puis au bout d'un certain temps, qui paraît raisonnable, un mois ou deux, on extube.
Ça veut dire que vous estimez qu'on est dans un cas d'acharnement thérapeutique ?
En quelque sorte, oui. En quelque sorte, oui. Je pense que c'est... Bon, l'état d'Ariel Sharon est-il humainement acceptable ? Est-ce qu'il a une utilité ? C'est de la philosophie, hein. C'est difficile de...
Quand s'arrêter ?
D'être affirmatif.
Quand arrêter les soins ?
Oui, alors quand arrêter les soins, effectivement, pour ce qui est des accidents vasculaires cérébraux, c'est très différent. Hein. C'est pas des traumatismes chez des gens jeunes, encore qu'il puisse y avoir des accidents vasculaires cérébraux chez des gens jeunes, des anévrismes qui se rompent à 15 ans, à 20 ans. Mais généralement, ce sont quand même des personnes plus âgées. Et lorsqu'on a la preuve par le scanner, ou par l'IRM, enfin par les techniques modernes, qu'il y a une inondation, ce qu'on appelle une inondation ventriculaire, c'est-à-dire qu'il y a un saignement diffus à l'intérieur de la boîte crânienne, on sait très bien que le patient ne va pas récupérer. Donc à ce moment-là, si on lui fait une trachéotomie, on va le prolonger éventuellement des mois ou des années. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas lui faire de trachéotomie.
La médecine n'a pas statué sur ces cas, c'est-à-dire que c'est à la discrétion du médecin.
Oui, c'est à la discrétion du médecin. Encore que maintenant, avec la loi Leonetti, il est admis que...
2005.
Oui, il est admis que lorsque on juge que la situation n'évoluera pas vers un état de santé raisonnable... On a le droit d'arrêter les traitements actifs.
Ça a changé quelque chose, vous estimez,
non,
au quotidien?
Ça a changé quelque chose dans ce sens
du
que...
Du point de vue du coma, hein?
Non, ça n'a rien changé au pronostic, ouais. Mais ça a donné meilleure conscience aux médecins.
Je résume, est-ce qu'on débranche plus facilement? Voilà,
non.
Depuis qu'il y a la loi Leonetti, est-ce qu'on débranche plus facilement?
Non, pas du tout, non. Si on débranche, généralement, on débranche pas d'ailleurs, parce que ça peut être difficile à supporter pour la famille et pour le personnel. Donc généralement, on diminue la quantité d'oxygène, on supprime les médicaments qui maintiennent artificiellement la pression artérielle, on fait un certain nombre de choses, mais on diminue le traitement, on limite le traitement, mais on ne débranche pas le patient parce que c'est... Enfin, je parle de la France, hein, des techniques françaises. Aux États-Unis, ou bien dans des pays nordiques, en Hollande, en Suède, ils débranchent. Ils débranchent direct, mais ils font aussi un traitement antalgique, un traitement qui évite aux patients de souffrir.
Est-ce que ça se fait toujours en concertation avec la famille, quand elle est là?
En concertation, oui. Alors il y a deux choses, hein. Ça dépend de ce que vous appelez la concertation. Les Américains demandent à la famille de prendre la décision. Vous voyez ? Donc, tandis que nous parlons à la famille et nous leur disons, voilà notre point de vue, il n'y a plus d'espoir raisonnable et il nous paraît plus sage d'arrêter les traitements actifs et de laisser votre patient mourir, mais en évitant la souffrance. Et donc, on n'a jamais de problème avec les familles. Hein. Les familles comprennent très bien.
Au cours de vos 20 ans d'exercice, jamais une famille ne vous a dit non, on continue?
Non, pratiquement non. Non, je n'ai pas de souvenir de ce type. Non, quand on leur explique que ça ne serait pas raisonnable de continuer, les gens comprennent. Bon, quelquefois, il faut plusieurs jours avant qu'ils comprennent, quoi. Il faut leur laisser le temps de comprendre ce qui se passe.
Professeur Le Gall, vous avez décrit 4 stades de coma. Est-ce qu'on peut faire le yo-yo dans ces 4 stades de coma?
Ah, c'est-à-dire être en...
Passer du stade 1 au stade 2, 3, puis remonter du stade 3 au stade 1, puis redescendre au stade 4.
C'est assez rare, mais c'est possible. C'est possible chez les... ça dépend de la cause, hein, mais prenons une cause particulière qui est le coma toxique, coma par intoxication.
Voilà, ça fait partie effectivement des causes vasculaires, traumatiques, toxiques, c'est la troisième cause.
Le coma par intoxication volontaire, les gens qui prennent des boîtes de médicaments, soit des anxiolytiques ou des antalgiques ou un mélange des deux, peuvent éventuellement tomber dans le coma dans un premier temps. Et puis, il y a une espèce de paralysie digestive, c'est-à-dire que les comprimés restent dans le tube digestif et le tube digestif ne bouge plus. Donc à ce moment-là, ils ne sont plus absorbés et le patient peut se réveiller. Et le tube digestif se réveille aussi, se remet à marcher. Et donc les comprimés sont à nouveau réabsorbés et le patient retombe dans le coma. C'est donc un cas particulier, mais qui n'est pas exceptionnel.
Parmi les autres causes infectieuses, tumorales, métaboliques, est-ce que l'on peut détailler?
Oui, les causes infectieuses sont les méningo-encéphalites, hein, les atteintes ménagées qui atteignent aussi le cerveau. Donc les maladies à méningocoque, par exemple, mais le pneumocoque aussi peut donner des méningoencéphalines mortelles. Il y a les virus aussi, il y a des encéphalites à virus, il y a la fièvre jaune aussi qui tue dans 100% des cas, la rage aussi, c'est pareil.
Dans 100% des cas?
Oui, la rage aussi, 100% des cas, on n'a pas encore trouvé de traitement. Donc ça, les causes infectieuses.
C'est-à-dire, on a un vaccin, mais quand on l'a, on ne sait pas comment la...
La rage, une fois déclarée,
c'est mortel dans 100% des
mortel,
cas.
C'est mortel, oui. Mais c'est exceptionnel, il y a eu un cas à Bordeaux il y a 3-4 ans ou plus, mais c'est tout à fait exceptionnel, en France en tout cas.
Oui.
En France, c'est exceptionnel. Les causes tumorales, bon, ce sont les tumeurs, hein, les tumeurs cérébrales ou les tumeurs des méninges. Enfin, toutes les tumeurs peuvent donner un coma. Hein.
On descend tout de suite dans les comas profonds avec une tumeur ou...
Pas forcément, non. Alors, non, mais on peut même ne pas être dans le coma. Hein.
Oui.
On peut...
Et métabolique
Alors, métabolique, ce sont les comas diabétiques. Hein, les comas diabétiques, essentiellement. Plus d'ailleurs... plus souvent des comas hypoglycémiques, c'est-à-dire par manque de sucre dans la circulation, que hyperglycémiques, que lorsqu'il y a trop de sucre. Les hypoglycémiques sont plus graves, hein, et peuvent donner des lésions cérébrales mortelles.
Mais on peut en voir comme ça, d'ailleurs, qui perdent connaissance d'un coup, Mais ce n'est pas un coma, hein, c'est une perte de connaissance en hypoglycémie.
Oui, en hypoglycémie, oui. Oui, ça commence par un malaise. Malaise. Souvent, c'est le patient sait d'ailleurs qu'il va être en hypoglycémie. Il suffit qu'il mange du sucre et ça s'arrange. Hein. Ça peut être un danger. Et puis aussi les comas, les grands alcooliques, enfin, les comas d'origine hépatique. Hein. Je ne parle pas du coma alcoolique. Coma alcoolique, par intoxication alcoolique aiguë, c'est un coma...
Un coma éthylique, toxique, hein, qu'on appelle éthylique.
Éthylique, c'est un coma toxique. Et ça, c'est dangereux, hein, le coma éthylique, parce que ce qu'il faut faire surtout, alors ça peut servir à tout le monde, quand on voit quelqu'un dans le coma, en particulier un coma éthylique chez un sujet jeune, on en voit de plus en plus... Il faut surtout le mettre sur le ventre, hein, ou sur le côté, mais pas sur le dos. Pas le laisser sur le dos.
Ah oui, pourquoi ?
Parce que quand on les laisse sur le dos, ils vomissent. Hein, quand ils ont bu beaucoup d'alcool, ils vomissent et puis ils inondent leurs bronches et ils meurent de noyés dans l'alcool, c'est le cas de le dire. Quoi. Ils s'arrêtent de respirer. J'ai vu des morts, hein, des morts... chez des jeunes par coma éthylique.
Vous semblez dire que c'est une évolution qui est plus marquée maintenant, le fait
que
les jeunes soient atteints par ce type de coma.
Oui, avec l'habitude du binge drinking, comme on dit, bien sûr. Et
ça, vous l'avez vu à Saint-Louis, par exemple.
Oui, on en voit. Mais ils le font exprès, c'est-à-dire qu'ils boivent pour tomber inconscient, hein. C'est impressionnant.
Ça procure une sorte de plaisir ou pas du tout ?
Le plaisir, c'est peut-être avant le coma, oui, peut-être qu'il y a un état de relaxation, qui peut être agréable. Encore, je n'en suis pas sûr.
Vous n'avez jamais été dans le coma, professeur ?
Non.
Non.
Si, mais pas longtemps, hein, pas longtemps. J'ai eu un accident de ski et,
ah oui.
Et donc un traumatisme crânien et je suis resté inconscient quelques minutes, mais complètement inconscient.
Alors, on ne se souvient de rien ?
Je me souviens de rien, non.
Est-ce que la plupart du temps, vos patients ont vu le temps se raccourcir en se souvenant de l'instant avant lequel ils sont entrés dans le coma, pardon ? Est-ce qu'ils se souvenaient de l'instant d'avant ? Est-ce qu'ils se souvenaient de l'instant pendant ? Ou comment ça se passe ?
L'instant d'avant, oui. L'instant d'avant, ça peut arriver. Pour un traumatisme, on peut se rappeler... dans mon cas, par exemple, je me rappelle que je skiais normalement. Je me rappelle à quel endroit. Et puis tout d'un coup, plus rien. Tout d'un coup, plus rien. Et c'est là qu'il y a eu le traumatisme. Je crois que c'est un jeune garçon qui m'est rentré dedans. Comme c'est classique. Et après, je me suis réveillé, j'ai vu des gens qui me regardaient, un peu comme au cinéma, qui me regardaient en disant ça va mieux, ça va mieux. Et ensuite, pendant plusieurs heures, j'étais dans un état très bizarre parce que je ne voyais plus les couleurs, par exemple. Les couleurs avaient disparu et je ne savais plus où j'étais. Vous voyez, il y avait des troubles de conscience et petit à petit, ça s'est amélioré.
C'est-à-dire que vous voyiez en noir et blanc ?
Oui.
C'est curieux, ça, ouais.
Et je ne savais plus où j'étais. C'est-à-dire je voyais bien que j'étais au sport d'hiver, hein, mais je ne savais pas où et je ne savais pas avec qui. Et petit à petit, c'est revenu, petit à petit.
Et pas de séquelles ?
Non, non. Dieu merci, non.
Professeur Le Gall, vous restez avec nous. On est dans ce regard croisé consacré au coma. À tout de suite.
La figure de Napoléon Bonaparte dans l'œuvre de Sacha Guitry. Jean Tullard, historien, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, vous donne les codes de représentation de ce personnage historique dans l'œuvre du cinéaste au cours d'une émission Carrefour des Arts. Téléchargez dès maintenant cette émission sur canalacademy.com.
Et pour ce regard croisé consacré au coma, c'est la dernière partie de notre réflexion avec le professeur Jean-Roger Le Gall, qui a été chef du service réanimation à Saint-Louis pendant 20 ans, professeur honoraire à l'Université Paris 7. Il est toujours médiateur à l'hôpital Saint-Louis. Il connaît bien évidemment sa situation de coma. On fait le point sous l'angle médical. Je voulais peut-être repartir, pour le temps qu'il nous reste, professeur Le Gall, sur ces délicates questions des frontières de la vie et de la mort. On a juste effleuré le cas Vincent Imbert en rappelant qu'il s'était trouvé à l'hôpital de Berck, dont vous dites que c'est une institution de référence en matière de connaissance du coma et de pratique médicale en la matière. Est-ce que vous-même, sans rappeler toute l'histoire, on peut peut-être la résumer d'ailleurs, vous avez peut-être vous-même une façon de la résumer, professeur Le Gall, et en quoi cette affaire médiatique a-t-elle pu changer votre perception de la réalité du coma ?
Elle n'a pas changé ma perception. J'ai eu un cas identique à celui de Vincent Imbert. Vincent Imbert n'était pas dans le coma, hein. C'est pas un coma. Ça s'appelle un locked-in syndrome en anglais, c'est-à-dire le syndrome d'un sujet qui est enfermé à l'intérieur de lui-même. Il y avait eu un livre qui avait paru, Le scaphandre et le papillon, sur ce même sujet.
Tout à fait.
Et donc, c'est une situation épouvantable.
Alors, il s'était trouvé dans le coma quand même, puisqu'il a eu un accident de voiture.
Oui, il a eu un accident de voiture, puis ensuite il a...
Enfin, de camion même, c'est un camion qui lui est rentré dedans.
Oui, oui. Mais ensuite, il n'était plus dans le coma. Donc, c'est un état peu enviable, peu confortable, où le patient est conscient, parfaitement conscient, hein, parfaitement conscient, et ne peut pas s'exprimer. Il ne peut pas parler, il ne peut pas bouger. Alors, quelquefois, il peut bouger un petit peu, par exemple, un petit doigt, ou bien les paupières. Et
comme dans le scaphandre et le papillon, précisément.
Oui, il arrive à échanger avec les gens qui s'occupent de lui, les kinésithérapeutes d'abord, bien sûr, et puis ensuite avec sa famille, il peut éventuellement converser. Il peut même écrire un livre, hein, comme l'auteur de Scaphandre et le papillon. Donc ça n'est pas un coma, c'est un syndrome d'enfermement qui est affreux, c'est affreux, hein, c'est vraiment...
Mais qui a résulté d'une situation de coma.
Oui, ça a résulté d'un...
Puisqu'on l'a sorti en fait d'une situation totalement extrême.
Ça a résulté d'un coma traumatique, oui, qui a récupéré sur le plan de la conscience. Il avait un cerveau normal, hein, un cerveau normal, mais... Les commandes musculaires n'obéissaient plus.
Où se trouvent les lésions, on sait, dans ce type
Généralement, c'est dans la situation. C'est dans la moelle, c'est dans la partie supérieure de la moelle. C'est un peu comme les tétraplégiques. Hein. C'est un peu la même situation, c'est encore pire.
Qu'est-ce qu'il y a de plus que les tétraplégiques ?
C'est un peu plus haut, la lésion est plus haute et peut-être multiple aussi.
Donc, immobilité totale des membres. Hein.
Oui, du visage.
Du visage, c'est-à-dire il y a une impassibilité complète.
Oui, impossibilité de parler. Il est tétraplégique, il parle. Hein. J'ai un ami, j'en ai plusieurs, mais j'ai un ami tétraplégique qui est chef de service hein, dans un hôpital. Il se déplace avec sa petite chaise, mais il parle, il va dans les congrès. C'est une situation...
En étant tétraplégique. Hein.
Oui. Donc, il est... pas non plus une situation enviable, mais c'est encore un autre cas. Et donc Vincent Imbert n'était pas dans le coma.
Alors ma question c'est, est-ce que, compte tenu maintenant du progrès de la technique médicale, est-ce qu'on se pose la question en sortant d'une situation extrême des personnes extrêmement atteintes, particulièrement atteintes, on risque de les laisser dans une situation, celle que vous décrivez, du Locked syndrome ?
Locked-in syndrome, c'est extrêmement rare.
Donc tous les comas...
C'est vraiment rare.
Vous ne vous dites pas à chaque fois que vous avez quelqu'un dans le coma, celui-ci va inévitablement déboucher sur ce type de situation.
Ah non, parce que c'est vraiment exceptionnel.
C'est exceptionnel.
Ah oui, exceptionnel. C'est vraiment... j'étais chef de service 20 ans, mais j'ai fait aussi 15 ans de réanimation en plus, donc... Ça fait 35 ans, même un peu plus, j'en ai vu un seul Locked-in syndrome. Hein.
Donc vous diriez que le cas de Vincent Imbert, ça représente 0,00...
Ah oui, ouais, c'est exceptionnel. Vraiment, c'est... Mais quand ça existe, on le sait, on fait le diagnostic. Hein. On sait que l'électroencéphalogramme est normal. Hein. L'électro est normal. Donc le cerveau est normal. Ça, c'est évident. Donc à ce moment-là, on cherche à communiquer par un moyen quelconque en disant « Si vous êtes d'accord, fermez les yeux. » Ils arrivent généralement à faire ça. C'est ce qui se passait avec le mien.
Avec le mien ?
Oui, avec mon patient, le patient que j'ai connu. Que j'ai connu avec le même, ce syndrome-là.
D'accord. C'est-à-dire, alors, il réagissait ?
Je lui disais « Si... vous êtes d'accord avec telle chose, on va changer un médicament ou bien...
bouger tel...
fermer les yeux.
C'est ça.
Fermer les yeux, si vous n'êtes pas d'accord, fermez les yeux deux fois. Et il le faisait.
Donc l'état de conscience
est normal.
Est normal.
Ouais, normal. Tout à fait normal. Donc Vincent Imbert, à mon avis, et à l'avis des... L'avis des kinés, kinésithérapeutes qui s'occupaient de lui et de l'équipe infirmière qui s'occupait de lui, il fallait continuer à le soigner. On ne sait jamais.
On ne sait jamais, c'est-à-dire
bon, on ne sait jamais. Peut-être qu'au bout d'un certain temps, il aurait pu récupérer, au moins en partie.
Est-ce que vous estimez que la question du coma est connectée d'une manière ou d'une autre à celle de l'euthanasie ? Ou est-ce que ce sont des sujets qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, somme toute, puisque vous vous situez à un niveau d'intervention qui est en deçà ?
L'euthanasie n'apporte rien, à mon avis, parce qu'actuellement, avec la loi Leonetti et les moyens actuels pour calmer la douleur ou pour calmer l'angoisse, on n'est pas obligé de tuer le patient, quoi. On n'est pas... Ça n'apporte rien. Et c'est quand même, en plus... c'est très dur de faire ça. Hein. C'est très dur. Hein. Je me rappelle, un matin, je suis arrivé à l'hôpital Henri Bondor, où je travaillais avant. Et il était très tôt. Et je voyais une infirmière qui injectait des ampoules de chlorure de potassium à un patient dans la tubulure. Dans le tuyau, quoi, dans le cathéter.
Donc elle pratiquait une euthanasie ?
Oui, elle pratiquait une euthanasie, elle injectait des ampoules. Et je lui dis, qu'est-ce que vous faites là ? Elle me dit, je lui injecte du chlorure de potassium et je lui demande qui vous a dit de faire ça. Elle me dit, c'est le réanimateur de garde, le médecin de garde. Et où est-il ? Il est au lit. Il n'était pas là. Et donc, j'ai fait arrêter immédiatement. Et donc, c'est pour vous dire qu'il peut y avoir...
la personne agissait de son propre fait ?
Non. Elle agissait sur l'ordre du médecin, mais qui...
Il n'était pas là.
Mais qui n'était pas là. Donc, c'est pour vous dire que les dérives peuvent être rapides. Hein. Les dérives peuvent être très rapides. Dans l'euthanasie, récemment, il y a eu une communication de Roselyne Bachelot sur l'euthanasie qui était très bien. J'étais tout à fait d'accord.
Alors, professeur Le Gall, personne, évidemment, on est dans une société qui regarde la souffrance avec beaucoup de difficultés.
Bien sûr.
Parce que la mort aujourd'hui est encadrée, professionnalisée presque.
Oui, bien sûr.
Est-ce que vous comprenez bien que la plupart des gens ne veulent pas rester dans un état végétatif pendant des années, si jamais la chose se produit, et qui verraient dans l'euthanasie une forme de presque de sécurité? Qu'en pensez-vous?
Vous voulez dire si...
De toute façon, l'euthanasie... j'ai la garantie en fait que si je souffre ou si je suis prolongé de manière inconsidérée, j'ai la garantie de mettre fin moi-même à mes jours. Quitte à en faire porter la responsabilité au monde médical, ce qui évidemment est extrêmement délicat.
Oui. Non, je crois que c'est une angoisse compréhensible, mais qui n'est pas fondée, parce que si une situation se produit pour soi-même, et on est inconscient, ou on a des troubles de conscience, on a une maladie grave, on n'a pas d'espoir de récupérer, je pense qu'il y a des analgésiques et des médicaments, et puis un soutien psychologique. Faut penser aux équipes et aux services de soins palliatifs qui sont tout à fait remarquables, qui permettent de moins souffrir. J'ai pas de pas souffrir du tout, mais en tout cas qui mène à une mort naturelle et probablement relativement confortable. Mais on peut pas dire que la mort soit confortable, mais non, recourir à l'euthanasie, au suicide, je pense que c'est pas une bonne solution.
Vous trouvez dans la veste de quelqu'un qui se trouve dans le coma un petit papier en disant « si jamais je suis dans le coma, n'hésitez pas à me supprimer ». Qu'est-ce que vous faites ?
Non, je ne le supprime pas. Je ne le supprime pas. Mais bon...
Vous en serez reconnaissant sans doute après ?
Non, oui, ça c'est...
C'est arrivé, c'est la fameuse histoire.
C'est arrivé. Le patient qui dit « je ne veux jamais aller en réanimation », une fois qu'il est très très malade, il dit menez-moi vite en réanimation. Quand il arrive en réanimation, il souffre beaucoup et il dit tuez-moi. Et puis après, il guérit et il remercie qu'on ne l'ait pas tué.
Professeur Le Gall, est-ce que vous pouvez nous dire si le coma fait l'objet aujourd'hui de recherches scientifiques approfondies pour essayer de mieux connaître cet aspect de l'existence qui peut concerner chacun.
Oui, il y a des recherches.
Qu'est-ce qu'on veut savoir de plus ?
Ce qu'on peut savoir, c'est l'état exact du cerveau actuellement au moment des états de coma. L'état exact, parce qu'il y a des techniques qui permettent de voir l'activité cérébrale non seulement chez les comateux, mais chez les gens normaux. Et puis chez l'enfant, on voit par exemple l'enfant, quand un enfant commence à parler, on voit la zone...
Donc l'imagerie médicale en fait.
L'imagerie médicale. Quand un enfant est bilingue, quand il parle deux langues, on voit qu'il y a deux zones dans le cerveau qui fonctionnent. Donc dans les comas aussi, on a différentes anomalies qu'on peut observer. Et ça peut aussi rendre service pour... connaître le pronostic.
Et la stimulation, à savoir si on peut stimuler telle ou telle zone.
Absolument, oui, bien sûr.
Ça, qui fait ce genre de recherche ? Est-ce que...
Alors écoutez, il y a pas mal de recherches à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui reste un centre de référence pour les comas. Pour les accidents vasculaires cérébraux, il y a aussi l'hôpital Lariboisière qui est tout à fait bien équipé. Et puis à l'hôpital Sainte-Anne aussi, il y a beaucoup de recherches.
Merci beaucoup, professeur Le Gall. Merci de nous avoir parlé du coma sous l'angle médical dans ce regard croisé. Je rappelle que vous avez étudié la question et pratiqué le sujet pendant 35 ans, chef de service réanimation à l'hôpital Saint-Louis. Pendant 20 ans, l'hôpital Saint-Louis, vous êtes médiateur et vous étiez professeur à l'université Paris 7. Merci.
Vous venez d'entendre un des deux volets de l'émission « Regard croisé sur le coma ». Pour que ce regard croisé soit complet, nous vous invitons également à écouter l'émission en compagnie de Daniel Vermeulen, anthropologue. Cette émission est en libre téléchargement sur le site de Canal Académie dans la rubrique « Regard croisé ».